Chers frères et sœurs, toutes les civilisations ont recherché une certaine sérénité, ou pour leur dire avec les mots de la première lecture, une certaine sagesse. En Égypte ancienne, on sait bien, les scribes, c'était aussi les sages. Et puis vous connaissez tous cette manière dont les Grecs appelaient ces sages. Eux-mêmes n'osaient pas s'appeler sages, ils s'appelaient simplement amis de la sagesse, ils n'avaient pas cette prétention, et on les appelait les philosophes, souvenir des classes de terminale. Et puis aujourd'hui, regorgent les comités de sages, qui s'octroient ce label avec beaucoup de facilité. Le sage pour le comité de pêche de l'Oise, ou tout ce qu'on peut imaginer, voilà, il y a toujours un comité de sages qui est là, assez facilement dénommé ainsi par eux-mêmes. Mais quelle est la spécificité de la sagesse pour les Juifs ? Est-ce que c'est celle des philosophes, justement ? Eh bien, les Juifs commencent avec cette conscience. Le premier acte de l'homme n'a pas été un acte de sagesse. Ça a été un acte de folie. D'étendre les mains vers le fruit, de douter de Dieu et de ruiner toute son existence. Voilà pourquoi le sage juif commence avec cela et commence à dire « Donne-moi la sagesse, donne-la-moi, je ne l'ai pas. » Et donc on peut voir que, comme premier point, la sagesse, elle doit être demandée. Elle doit faire l'objet d'une supplication. Par moi-même, je manque de prudence, je manque de discernement. Les passions m'aveuglent, l'ignorance m'accable. Et la prière du roi Salomon, vous la connaissez, « Je n'ai pas demandé la richesse ni le pouvoir, je t'ai demandé la sagesse. » Lui, ce jeune roi, fait cette prière extraordinaire, alors qu'on aurait pu attendre toute autre demande, la victoire sur les ennemis, etc. Et cette supplication, Dieu va y répondre. Il est très beau de voir aussi que, dans l'Ancien Testament, la sagesse, c'est celle qui appelle. Et d'où appelle-t-elle ? Elle appelle depuis les portes de la ville. Qu'est-ce que c'est que les portes d'une ville ? C'est le lieu où convergent tous les chemins pour pouvoir rentrer dans la ville ensuite. Le lieu où convergent toutes les populations. Donc la sagesse, elle s'adresse vraiment à tous. Et la sagesse qui était le bien de quelques philosophes, de quelques ascètes peut-être, une espèce d'élite avec le Christ, elle est offerte à tous. Tous peuvent devenir sages. Quelle était belle l'image des premiers chrétiens qui faisaient du Christ le premier philosophe, le premier sage, mais qui communiquait sa sagesse à tous ceux qui en voulaient. Et il est bon aujourd'hui de revenir à cette nécessité de la sagesse. Nous avons dans l'idée que le chrétien, c'est quelqu'un qui se donne, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui, à l'occasion, prie. Mais quelqu'un qui soit sage, ça n'est pas dans notre mentalité. On dépense beaucoup d'énergie, mais cette énergie est-elle orientée ? Parfois, que d'énergie perdue et fatigante pour nous-mêmes et pour les autres. Nous nous agitons, mais est-ce que nous faisons vraiment l'œuvre de Dieu ? Et si nous ne la faisons pas, pourquoi ? Juste un petit rappel qui nous aide. Qui est le sage ? Le sage, c'est celui qui sait contempler l'ordre, c'est-à-dire qui sait voir les choses telles qu'elles sont. Trop souvent, nous-mêmes, nous sommes comme des analphabètes de la réalité qui nous entoure. C'est comme si nous voulions aller faire du commerce aux États-Unis sans savoir l'anglais. On n'aurait pas beaucoup de succès. Eh bien voilà, nous sommes pas sages, c'est-à-dire que nous ne savons pas lire cette réalité qui nous entoure, nous ne savons pas lire notre propre cœur et nous ne connaissons pas ni les autres, ni Dieu. Et notre action tombe à côté. Que c'est important que de pouvoir voir, discerner. Bien sûr, cela est un don, mais ce don, on doit le cultiver en nous-mêmes. Le Saint-Père termine sa magnifique lettre sur la sainteté avec cette aptitude au discernement qui, dit-il, est redevenue particulièrement nécessaire. Pourquoi ? Parce que la vie actuelle multiplie les possibilités d'action, de distraction. Et le monde nous propose ces distractions comme également valables. Il faut faire une œuvre de discernement pour que cela puisse nous construire. Cela est important que le chrétien soit un homme qui agit, soit un homme qui prie, mais soit aussi un homme qui pense. Souvent, nous squeezons, nous mettons entre parenthèses une des composantes. Je prie et j'agis. Mais non, pense aussi. Pense à ton action, regarde le milieu dans lequel tu es, ton milieu professionnel, ta famille, regarde, fais attention à la psychologie, sans tout psychologiser, mais ne va pas trop vite, sous prétexte de générosité. Ton action tombera à plat. La même chose pour l'évangélisation. Un des grands charismes, par exemple, de l'ordre jésuite, c'est de savoir discerner la réalité et de s'adapter. Notre Saint-Père nous en a montré des exemples extraordinaires. C'est cela dont nous avons besoin. Ne pas trop vite agir et prendre ce temps de réflexion. Cette première caractéristique, c'est donc de supplier pour avoir la sagesse. Le deuxième point, c'est la deuxième lecture qui va nous en parler, c'est de pouvoir écouter. Parce que nous pouvons supplier d'avoir cette sagesse, mais il faut l'écouter, il faut se laisser reconfigurer par ce que le Seigneur nous aura dit. Une exégète traduisait la prière de Salomon par ces mots « Donne-moi la sagesse ou donne-moi un cœur qui écoute profondément. » Le Saint-Père poursuit « Il pourrait arriver que dans la prière, nous évitions de nous laisser interpeller par la liberté de l'esprit qui agit comme il veut. » Le discernement trouve son origine dans la disponibilité à écouter le Seigneur, à se laisser réformer par lui. Et ce grand moyen, justement, quel est-il de l'écoute ? Eh bien, c'est sa parole. C'est la deuxième lecture qui nous en parle. La parole de Dieu, elle nous apporte plein d'informations intéressantes sur Dieu, peut-être, sur des civilisations disparues, sur une sagesse de vie. Mais, si je puis dire, ce n'est pas de cette parole-là qu'il s'agit dans la deuxième lecture. C'est cette parole vivante et efficace qui pénètre notre cœur. Et c'est beaucoup plus la parole qui nous lit que nous qui lisons la parole. Elle discerne les intentions cachées. Elle fait émerger le secret du cœur. Sans quoi ce cœur, nous restons analphabètes devant lui. Il nous est étranger. Et quoi de pire que d'avoir comme une force extérieure à nous-mêmes, comme un alien, si je puis dire, qui est notre propre cœur, ce cœur compliqué, malade, où va-t-il nous mener ? Grâce à Dieu, la parole nous est donnée, c'est une lumière, c'est une purification. Vous savez, c'est aussi cette très belle image que les pères de l'Église disaient, quand le Christ regarde, son regard éclaire. Eh bien voilà. Parfois c'est difficile, mais il est bon que la parole nous remette en question et il est dangereux que cette parole nous la lisions comme si elle était inoffensive, que jamais elle ne nous déstabilise. Parole qui nous vient de la parole de Dieu, mais de la nature, mais du cri du pauvre, mais du cri de nos frères aussi, ou de la remarque que peuvent nous faire nos frères. J'ai la parole de Dieu, je suis satisfaite avec elle. Non, Dieu a mille et une façons de nous parler. Tout parle de lui si nous savons être attentifs. Et une fois que cette parole a fait émerger ce secret de notre cœur, il devient inoffensif, si je puis dire. Il est dirigé vers lui. Saint Bernard disait très bien de ces défauts tapis en notre cœur, pour eux, paraître, c'est périr. Il suffit qu'ils apparaissent pour qu'ils n'aient plus de force maléfique. Donc, supplication, écoute, et puis docilité. Docilité, parce que cette sagesse, cette parole, elle est vivante. Parfois, on a le sentiment que la vie chrétienne, c'est avoir le QCM des commandements et puis pouvoir cocher. Vous savez bien que c'était comme ça parfois que se confessaient nos parents ou grands-parents. J'étais en Alsace et il y a parfois encore des gens qui, avec beaucoup de bonne volonté, se confessaient assis. Premier commandement, 2 fois. Deuxième commandement, 3 fois. Quatrième commandement, 6 fois. Sixième commandement, 300 fois, etc. Voilà. Et puis, à quoi ça rimait ? Y avait-il vraiment une conscience que nous sommes appelés à un plus ? On peut faire une remarque dans le magnifique évangile que nous avons aujourd'hui, qui est le jeune homme riche. Vous voyez très bien, quand le Christ interroge le jeune homme par rapport au commandement, comment répond celui-ci ? Il répond de la manière suivante. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Très bien. Quelle est la remarque qu'on peut lui faire ? Que fais-tu des 3 premiers commandements qui portent sur Dieu ? Tu parles que des commandements du prochain. C'est très bien. Il y a un secret. C'est que ces 3 premiers commandements qui parlent de Dieu, désormais, ils sont résumés en un seul. Suis-moi. Voilà comment la parole de Dieu nous invite à cette suite du Christ, c'est-à-dire à être perpétuellement en mouvement. Je ne peux pas dire, le premier commandement, je l'ai coché et ça suffit, je suis quitte avec le Seigneur. Non, aujourd'hui le Seigneur te demande ceci, mais demain, il te demandera d'aller un peu plus loin dans cette suite, dans cet accueil de sa grâce qui réforme ton cœur, qui le bouleverse parfois, mais qui te donne peu à peu de n'être plus qu'un seul esprit avec lui. Voilà pourquoi notre vie chrétienne, elle est passionnante. Elle est une aventure. Elle est un cœur à cœur avec Dieu. Et le jeune homme de l'Évangile, justement, son drame, c'est qu'il refuse cette croissance. C'est qu'il refuse cette suite. C'est que ses grands biens, c'est justement ce qu'il a coché ses commandements et que pour eux, ce sont devenus des richesses dont il ne veut pas se séparer. Bien sûr qu'il faut faire tout cela. Mais cela ne vaut guère si tu ne me suis pas. Alors il aura sans doute d'autres chances pour suivre à nouveau le Christ. Mais voilà, ne refusons pas ces croissances. Ne refusons pas cette remise en question, ces conversions profondes. La grâce en nous fait tout craquer. Voilà, le Saint-Père nous le dit aussi, sur tous les plans de notre vie, nous pouvons continuer à grandir et offrir quelque chose de plus à Dieu, y compris là où nous sommes dans l'épreuve. Chers frères et sœurs, c'est Marie qui a suivi l'agneau partout où il allait. C'est Marie qui d'abord a supplié pour que cette sagesse lui soit donnée. C'est Marie qui ensuite a écouté cette sagesse, qui a écouté et médité toutes ces choses dans son cœur. C'est Marie qui l'a suivi jusqu'au bout, jusqu'à la croix et jusque dans la résurrection, qu'elle nous obtienne cette docilité du disciple.